Vous aimez la littérature et le monde du livre? Ne manquez pas Épilogue pour découvrir chaque semaine des livres d'ici et d'ailleurs. Entrevues avec des écrivains, critiques de romans, de poésie, d'essais, de BD et actualités littéraires sont au menu de cette émission qui propose de tout aux oreilles du lecteur et de la lectrice en vous. Épilogue, le dimanche midi, rediffusion mardi 10h sur les ondes de CKIA FM.
Fans de rock progressif, Profil, c'est votre référence depuis 30 ans. Découvertes musicales, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88,3 FM ou sur profilprog.com. Profil, c'est 30 ans de découvertes musicales.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du 13 septembre 2024. Québec accueille aujourd'hui son 13e Grand Prix cycliste. À cette occasion, plus de 150 des meilleurs coureurs au monde s'affrontent sur un parcours à la fois majestueux et exigeant. Entre 11h et environ 16h15, une boucle de 12,6 km sera franchie pour plus de 16 fois par les cyclistes pour un parcours total de 201,6 km. Pour l'occasion, d'importantes modifications à la circulation et au stationnement sont en vigueur dans les secteurs du Vieux-Québec, de la colline parlementaire, des plaines d'Abraham, du boulevard Champlain et de la cour de la Montagne. Les travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Pur à Québec sont en grève pour accentuer la pression afin de faire avancer les négociations. Ce nouveau débrayage de syndiqués de la Fédération du commerce de la CSN s'ajoute aux nombreuses journées de grève intervenues depuis juillet dernier dans le cadre de la 11e ronde de négociations coordonnées de l'hôtellerie CSN qui regroupe cette année 30 hôtels québécois et plus de 3 500 travailleurs et travailleuses. La Fédération syndicale prévoit d'autres journées de grève, y compris de nouvelles journées nationales, si les avancées ne se constatent pas rapidement aux tables de négociation. Le Conseil en éducation des Premières Nations, CEPN, regroupant 22 Premières Nations au Québec et œuvrant à la réalisation de leur droit d'exercer leurs pleines compétences en matière d'éducation, lançait hier son tout nouveau portail Web, Les Voix du Territoire. Celui-ci présente des ressources fiables montrant les réalités et perspectives des Premières Nations et des Inuits du Québec. Conçu pour les éducateurs et éducatrices allochtones, le portail fournit des renseignements utiles sur les Premières Nations et les Inuits. L'objectif est de leur donner les moyens de transmettre des savoirs autochtones dans le cadre du Programme québécois d'éducation. Le portail Les Voix du Territoire est accessible à l'adresse lesvoixduterritoire.ca. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec annonce la fermeture du pont de Québec à compter de ce soir 20h jusqu'à lundi matin 16 septembre à 5h30. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Des épisodes de congestion sont à prévoir cette fin de semaine. Le Bureau des affaires poétiques invite la population à déambuler dans les rues de l'arrondissement La Cité-Limoilou les 14 et 15 septembre en présence des artistes du projet Pas à pas. Ceux-ci mettront en lumière des doléances piétonnières dans un parcours physique, numérique et poétique. L'événement de lancement se tiendra le 14 septembre dès 14h à la place Jacques-Cartier, située à côté de la bibliothèque Gabriel-Roy. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
toute simplicité. Parfois, ayant eu mon sou de compagnie humaine et de ragots, et ayant épuisé tous mes amis du village, je m'en allais vagabonder plus loin vers l'ouest que je ne le faisais d'ordinaire, dans des régions encore moins fréquentées de la ville, vers de fraîches forêts et des pâturages neufs, ou bien, tandis que le soleil se couchait, j'allais dîner de bleuets sur la colline de Fairhaven et en revenais avec des provisions pour plusieurs jours. Les fruits ne donnent pas leur vraie saveur à l'homme qui les achète au marché, ni à celui qui les cultive pour les y vendre. Cette saveur, il n'est qu'une seule manière de l'obtenir, que pourtant peu de gens pratiquent. Si vous voulez connaître le goût du bleuet, interroger le cow-boy ou la perdrix. C'est une erreur grossière que de présumer connaître le goût du bleuet si on ne l'a jamais cueilli. Aucun bleuet n'atteint jamais Boston. Ils y sont depuis longtemps. Elles poussaient sur les coteaux et les trois collines de Boston. La part divine et délicieuse du fruit se perd en même temps que disparaît sous l'effet du frottement dû au transport jusqu'à l'étal, la fine efflorescence blanchâtre qui le recouvre, et il ne vaut alors guère plus que comme fourrage. Tant que règnera l'éternelle justice, aucun bleuet ne pourra pas être transporté jusqu'à Boston depuis les collines du pays.
J'ai devant moi la vie pour
Alors, bienvenue en toute simplicité. Bienvenue à notre nouvelle saison dans toute simplicité. Je me rends compte que j'ai de la difficulté ce matin avec ma console. On va se dérouiller. Là, c'est la première émission de la saison, donc on va s'habituer. Alors, c'est ça. Pour commencer, j'ai fait plusieurs lectures cet été. J'ai ma revue de presse qui est un peu plus longue que d'habitude. Puis quelques annonces à faire. Alors, pour commencer, il va y avoir un café philo vendredi prochain, le 20, à la librairie La Liberté sur la route de l'église. Alors, pour ceux que ça intéresse, il faut téléphoner à la librairie pour s'inscrire parce qu'il y a un maximum d'inscriptions. On prend un maximum 20 personnes. Donc, il s'agit tout simplement de téléphoner à la librairie pour réserver votre place. Ensuite, dans les lectures, il y a l'émission aussi que je voulais vous parler, l'émission de Radio-Canada qui s'appelle « Ralentir ». Il y a eu 8 épisodes cet été sur l'idée du ralentissement, qui est un thème qu'on aborde beaucoup dans l'émission En toute simplicité. Et si ça vous intéresse, elles sont disponibles en podcast sur le site de Radio-Canada. Vous n'avez seulement qu'à écrire « Radio-Canada, ralentir ». Il y a 8 épisodes. J'en ai écouté quelques-uns. C'est très bien. C'est inégal. Il y a des chroniques ou des reportages qui sont moins intéressants, mais d'autres très intéressants. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent sur le ralentissement, 8 épisodes disponibles en podcast sur le site de Radio-Canada. Il y a aussi le dernier Philosophie Magazine qui date, c'est celui de juillet-août, qui est en kiosque présentement. Plusieurs bons articles, entre autres, concernant la simplicité volontaire, un article sur le cabanisme qui est quand même intéressant. Disons que en simplicité volontaire, là, le retrait en nature, c'est pas pour tout le monde. On peut faire de la simplicité volontaire, pratiquer la simplicité volontaire sans aller jusqu'à s'isoler dans une petite cabane. Mais c'est quand même intéressant c'est un reportage intéressant de voir pourquoi que certaines personnes ont besoin de se retirer puis de vivre d'une façon plus isolée dans des cabanes. Bien, certaines de ces personnes-là n'ont pas d'électricité. En tout cas, c'est pas d'eau courante, mais c'est un article intéressant qu'il y a dans le dernier Philosophie Magazine. Il y a aussi un bel article sur David Abraham, qui est un philosophe qui s'intéresse à nos liens avec la nature, comment reconnecter avec la nature, comment on vit déconnecté de la nature. Puis les liens, l'idée des liens, ce sera la thématique de l'émission cette année. Donc, on va parler des liens pendant toute l'émission. Donc, si ça vous intéresse, c'est dans le dernier Philosophie Magazine. Je vais vous lire un petit extrait. Il parle de la lecture. Il parle de Socrate et de Platon qui... Il dit la grande nouveauté d'un système d'écriture, il parle des livres, l'écriture phonétique comme l'alphabet, c'est qu'il s'agit d'une forme d'animisme tellement concentrée qu'elle tend, une fois établie, à éclipser tous les autres modes de participation dans lesquels nous nous livrions autrefois. C'est pourquoi, comme je le soutiens, le système d'écriture formelle, et en particulier l'alphabet, ont eu pour effet de rendre le monde silencieux. Puis c'est ça, il nous explique plus tard que dans les peuples ancestraux, tout le monde était en communication avec la nature. On parlait aux animaux, on parlait aux arbres. Le monde n'était pas silencieux. Le monde était finalement comme une espèce de... comme des partenaires de vie. Et les, dans les peuples ancestraux, on parlait aux pierres, on parlait à tous les, à tout finalement. On dit, je suis convaincu que le rapport que les hommes entretiennent entre eux se répercute dans le rapport qu'ils entretiennent avec les plus qu'humains. Et inversement, si vous considérez que les êtres vivants sont des choses, des concaténations d'objets ou des processus mécaniques et déterminés, cela ne peut qu'avoir un impact sur les relations interhumaines, mais pas dans le sens d'une grande objectivation. Je m'explique, la nature spirituelle que je peux trouver dans la vie ne peut venir que des relations que je noue avec mes semblables. Cela met une pression considérable sur ces relations. Alors, on limite bien souvent nos liens à nos proches. Mais Abraham dit que, dans le fond, on pourrait être en contact avec toute la nature. En tout cas, c'est un article que je vous recommande. C'est dans le dernier Philosophie Magazine. Et il y a aussi, dans le même numéro, un article sur Albert Camus qui est intéressant. Sur les vertus, on en a parlé. On va revenir là-dessus. Bref, un article sur la méditation. Bref, le Philosophie Magazine qui est en kiosque actuellement, je vous le recommande. C'est un bon numéro. Ensuite de ça, j'ai vu aussi qu'on est revenu dans certaines revues. On a reparlé du film Les Jours Parfaits dont j'ai beaucoup parlé à l'émission, que j'ai beaucoup aimé. Et qui est un film sur la simplicité volontaire. J'ai été le voir deux fois. J'aurais même aimé y aller une troisième fois, mais en tout cas, ça n'a pas donné. Mais en tout cas, si vous avez une chance de trouver ce film-là, parce que là, je ne pense pas qu'il est encore en salle là, présentement, je vous recommande. J'ai vu, il y avait un gros article dans une revue bouddhiste qui faisait l'éloge de ce film-là. C'est un film sur comment être présent, comment apprécier le moment présent, comment vivre simplement. En tout cas, très, très beau film. Ensuite aussi, j'ai vu dans les médias que dans le Devoir d'aujourd'hui, en fin de compte, qu'il y a une manif sur le climat qui se prépare, qui aura lieu le 27 septembre. Alors, il s'agit de ceux qui s'intéressent d'aller voir là, sur les sites, probablement les Amis de la Terre. Ce que je vois, en tout cas, qu'il y aura une manif pour le climat le 27 septembre. Maintenant, dans les revues, dans ma revue de presse, dans le Devoir, j'ai conservé quelques articles que j'ai vus passer cet été. C'est comme une rétrospective de ce que j'ai vu passer cet été. Le premier dossier... Que j'ai retenu, c'est celui sur le dossier sur le caribou. Et il y a plusieurs articles dans le Devoir sur le dossier de la protection du caribou. En tout cas, ça avance pas vite, là, on sent. Il y a un article, entre autres, dans le Devoir de mardi, le 10 septembre. Mardi dernier, les caribous de la Gaspésie condamnés à la captivité. Le gouvernement du Québec souhaite maintenir des bêtes en enclos pour poursuivre leur reproduction. C'est que on a de la difficulté à vouloir accepter un compromis là, sur l'exploitation forestière. Le gouvernement du Québec mise de nouveau sur la garde en captivité pour éviter la disparition d'une population de caribous au seuil de l'extinction. Tout indique, en effet, que la majorité des caribous de la Gaspésie vont demeurer en enclos, leur habitat souffrant toujours d'un manque de protection pour assurer la survie de la harde, qui ne fait pas partie du décret fédéral. Non seulement les caribous montagnards est une espèce emblématique du parc de la Gaspésie, qui se situe au cœur de son habitat essentiel, mais il représente aussi la dernière population de caribous des bois qui vit au sud du Saint-Laurent. En tout cas, il y a plusieurs articles que j'ai vus passer. C'était dans le Devoir d'aujourd'hui. l'éditorial de Louis Maud Soucy dit « Le débat sur le sort à réserver aux caribous forestiers nous ramène ces jours-ci à des manichéismes stériles. Oui, des emplois sont en jeu. Oui, des hardes sont en péril. Mais le problème ne se résume pas à opposer les premiers aux seconds, n'en déplaise à ceux qui cherchent à simplifier un dossier qui croise des éléments aussi fondamentaux que l'avenir de notre forêt boréale, la résilience de notre industrie forestière et l'aménagement de notre territoire. Cela fait 8 ans que le gouvernement de François Legault promet un plan de protection du caribou et de son habitat. Il n'a que lui à blâmer si aujourd'hui Ottawa s'invite chez lui avec ses grands sabots en choisissant l'attentisme. Québec a laissé le temps faire tranquillement, mais sûrement son travail de sape sur des populations qu'il savait fragiliser. Le sentiment d'urgence invoqué par le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, pour justifier son décret visant 3 hardes au Québec est la conséquence directe de l'indolence des caquistes et il est fondé, n'en déplaise à ces derniers, qui contestent l'analyse du fédéral, tout en s'irritant de ce nouvel empiètement sur leurs compétences. Le ministère fédéral de l'Environnement calcule qu'il reste de 6 000 à 5 000 caribous forestiers sur le territoire québécois où l'animal emblématique est soumis, à son avis, à des menaces imminentes. En janvier, une étude internationale a pour sa part estimé que 11 des 13 populations étaient à risque de disparaître sur ce territoire. Sécuriser les hardes de Charlevoix, de Val-d'Or et de Pipmouacan est donc devenu une nécessité pressante, argue le ministre Guilbeault. Ensuite, évidemment, le dossier du climat, plusieurs articles. J'en ai retenu un qui est un peu plus récent. Je vais le retrouver. J'ai trop retenu d'articles. Bon, je vais laisser faire cet article-là parce que je ne le retrouve pas. Je ne le retrouve pas. Bon. Alors ici, j'ai un article de mercredi dernier. L'économie d'ici transgresse les limites planétaires. C'est une étude de Recyc Québec. Ça, c'est sur les ressources, la surconsommation des ressources. Met en lumière notre surconsommation des ressources et les moyens de la réduire. Notre modèle économique linéaire basé sur une surconsommation des ressources transgresse les limites environnementales planétaires, constate un document public publié mardi par Recyc Québec et qui invite à mettre en œuvre différents principes afin de réduire notre empreinte matérielle. Initiée par la Société d'État et produite en collaboration avec l'organisme international Circle Economy, l'étude met l'accent sur le caractère non durable de l'économie québécoise. Même si la province canadienne est renommée pour ses vastes forêts et sa production d'électricité presque entièrement renouvelable, la consommation d'eau et d'autres ressources est exceptionnellement élevée. Et l'utilisation du vélo reste relativement faible. Dans l'ensemble, le Québec est responsable d'une importante empreinte matérielle de 271 millions de tonnes de ressources par année, soit 32 tonnes par habitant, ce qui dépasse largement la moyenne à l'échelle mondiale. Cette réalité découle, selon l'étude, du fait que la province a un niveau de circularité faible, puisqu'à peine 3,5% de l'économie sont considérés comme étant circulaires, donc liés à un système de production, de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service. La moyenne mondiale est de 7,2%. Et en tout cas, notre bilan n'est pas très positif au niveau de notre empreinte écologique au Québec. Alors, pour ceux qui s'intéressent, c'était dans Le Devoir de mercredi dernier, l'économie d'ici transgresse les limites matérielles. Un autre article intéressant que j'ai retenu qui date du fin du mois de juillet, on parle du terrain, l'ancien terrain de Rabaska à Lévis, l'est de Lévis, champ de bataille entre agriculture et industrie. Les terres de Rabaska, un territoire de 272 hectares situés à l'est de Lévis, font l'objet de nombreuses convoitises. Lévis, le gouvernement du Québec, rêve d'y enraciner une zone industrielle. D'autres protestent contre leur ambition économique qui menace à leurs yeux un milieu à protéger, tour d'horizon d'un champ de bataille où s'affrontent depuis 20 ans deux visions du développement. Ce sont les terres à la beauté encore inaltérée. Il y a le Saint-Laurent au nord qui s'allonge autour de l'île d'Orléans, avec en toile de fond la silhouette des Laurentides. Le sud appartient à une centaine d'hectares. Le sud appartient à une centaine d'hectares de champs qui se perdent dans une nature où, à travers une tourbière, un lac et quelques ruisseaux, orignaux et chevreuils se baladent à l'ombre d'une forêt dense qui abrite aussi de grands ducs. En contrebas de la falaise qui longe le fleuve, il y a un kilomètre de berge, explique Michel Bégin-Lamy, un kayakiste habitué à pagayer dans ces paysages. Elles sont toujours vierges et sauvages. Aucune maison, aucun chalet. Et puis là, ben, il y a un organisme qui travaille là, à essayer de sauver... sauver cette terre-là. Ça me fait penser au dossier des terres des Sœurs de Charité qui, finalement, semble aller en bonne direction là, du côté de Québec. Alors, il faudrait aider ces gens-là. On dit le gouvernement négocie les derniers détails afin d'acquérir ces terres à la société Rabaska. Alors, on dit plusieurs se mobilisent toutefois contre cet appétit économique, réunis autour du collectif Sauvetage pour le patrimoine agricole de Lévis. Ils défendent ces terres qui appartiennent au giron agricole jusqu'à ce que le gouvernement décrète en 2007 leur dézonage en vue d'y enraciner le port méthanier alors promu par la société Rabaska. Alors ça, c'était dans le devoir du mercredi 31 juillet. C'est un dossier à suivre. Le titre de l'article, c'est « L'Est de Lévis, champ de bataille entre agriculture et industrie ». C'est un article de Sébastien Tanguay. Il y a aussi un article intéressant que j'ai retenu qui parle des plus belles villes. On dit... Attendez que je retrouve. C'est que C'est suite aux Olympiques qui a eu lieu cet été. On a réalisé que la ville de Paris est vraiment une belle ville, une ville magnifique. Et malheureusement, Los Angeles est pas mal moins intéressante. Alors, encore une fois, on se rend compte. L'article, c'est « Qu'est-ce qu'une belle ville? » Un article de Stéphane Baillargeon, c'était dans le Devoir du 26 août. Et on nous dit, en gros, qu'est-ce que on a sept critères pour déterminer qu'est-ce qu'une belle ville. Et, évidemment, la ville de Paris, on est dans le... presque un score parfait, puis on s'en va avec Los Angeles qui a beaucoup de difficultés. On dit, par exemple, à Paris, il y a une station de métro à tous les 600 mètres, un nouveau réseau en construction, et en petite et en grande couronne, va ajouter 68 nouvelles gares, en additionnant les lignes de métro, de tramway et de RER construites entre 2020 et 2030 dans l'agglomération parisienne. On en arrive à 169 nouvelles stations. Bientôt, 98 des Parisiens vivront à moins de 2 km d'une gare, soit à moins de 10 minutes de trajet en vélo. Puis, évidemment, un des critères importants, c'est justement la mobilité au niveau du transport. L'absence d'autoroute dans le cœur de Paris, le fait que la majorité des Parisiens n'ont pas d'auto puis ils vivent à pied, ça contribue beaucoup à la beauté de Paris, la traite pourrie de Paris. Évidemment, on a l'architecture, ça. Los Angeles ne pourra pas nécessairement reproduire l'architecture extraordinaire de Paris, mais elle devra travailler au moins sur au niveau de la mobilité. Il semblerait que, en tout cas, ce que j'ai entendu, c'est que ça leur a donné un choc là, de voir qu'ils avaient à compétitionner avec la ville de Paris comme beauté de ville. Et ils vont essayer de réduire le nombre d'autoroutes. Puis on semblerait qu'ils travaillent sur un métro. Donc, c'est à suivre, mais en tout cas, ce qui fait une belle ville, on le voit. Puis d'ailleurs, on devrait s'inspirer de cet article-là pour Québec. Comment le dossier du tramway est important si on veut avoir une belle ville. Donc, pour ceux qui s'intéressent, qu'est-ce qu'une belle ville? Dans le Devoir du lundi 26 août, article de Stéphane Baillargeon. Il me reste un ou deux articles. Après ça, on va passer avec une pause musicale parce que je fais un peu le tour de ce que j'ai vu cet été. Un article intéressant dans jeudi, hier finalement, sur la fameuse thèse de l'écocide sur l'île de Pâques. Il y a Jared Diamond qui a écrit un livre qui s'appelle « Effondrement », qui était très populaire il y a environ une dizaine d'années. Et il donnait des exemples d'effondrement causés par les hommes, finalement, des effondrements de société écologique. Et dans l'article, il y a des scientifiques qui sont allés étudier l'île de Pâques, puis on dit que la thèse d'un écocide vacille, que c'est probablement pas ce qui est arrivé, que les gens de l'île de Pâques étaient... La population était beaucoup moins grande que ce qu'on avait spéculé avant. Et quand les Blancs sont arrivés, la population était à peu près équivalente à ce qui était traditionnellement. Donc, il n'y a pas eu une baisse de population comme on pensait. Puis, au contraire, c'était des peuples... on pourrait appeler de Première Nation, qui vivaient là, puis il semblerait qu'ils vivaient de façon écologique, puis ont su, malgré leur petit territoire, survivre, puis préserver finalement la biodiversité, puis l'écologie de l'île de Pâques. Donc ça, c'est intéressant, c'était dans le Devoir de cette semaine. J'ai retrouvé mon article là, sur le climat. C'était dans le Devoir de jeudi dernier, le 5 septembre. La ville de Phoenix dépasse les 100 jours consécutifs à plus de 37 degrés Celsius. Les étés à Phoenix sont notoirement chauds. Mais après deux étés de record de chaleur, la dernière étape, franchement dit, pourrait bien être la plus inquiétante à ce jour. À 11 heures, heure locale, le mercure à Phoenix a atteint 37,8 degrés Celsius, 100 degrés Fahrenheit, pour une centième journée consécutive. La plus longue série de température de ce niveau avait duré 76 jours en 1993. Autrement dit, cette année a connu une série ininterrompue de journées à 37,8 degrés Celsius, au moins 3,5 semaines de plus que pendant n'importe quelle autre année depuis le début des relevés en 1896. Cette chaleur implacable met à l'épreuve la volonté des habitants de Phoenix. Bien qu'habitués à des étés très chauds, nombre d'entre eux n'ont jamais eu à endurer une telle situation. Et la chaleur s'est avérée dangereuse pour les groupes vulnérables, tels que les travailleurs en plein air et les populations sans abri. Donc, on le voit, là, les changements climatiques, c'est ponctuel, c'est ici et là, mais c'est finalement partout on voit les effets des changements climatiques se concrétiser. Ensuite de ça, dernier petit article avant la pause musicale, c'est l'intelligence des mouches à fruits. Alors, c'est un article du mardi 30 juillet. Puis en gros, là, je lirai pas l'article, mais en gros, on dit que les mouches à fruits, malgré leur très petit cerveau, démontrent une intelligence surprenante. Donc, c'est pourquoi j'ai retenu cet article-là, c'est que, justement, dans notre thématique de cette année sur les liens, je vais essayer d'avoir plusieurs invités qu'on va parler de notre lien avec la nature et avec les animaux, évidemment, comme je vous le mentionnais dans l'article là, dans le Philosophie Magazine. On va beaucoup parler des liens cette année. Alors, article intéressant sur l'intelligence des mouches à fruits. Le mardi 30 juillet, c'est un article de Lisette Ortega, Lisette Ortega, dans Le Devoir. Bon, alors on prend une pause musicale et justement, je vais avoir une lecture pour vous là, sur les liens au retour.
El galanta sin marida, tan lontan dal suo paese, la fiauna scusa giù, l'induman la chita lì. Alla fa il soldato setani, dopo setani ne riva lì. Ad ai piedi in talla porta, della Fiorenza venì dormì. Sua mamma dalla finestra, della Fiorenza ie papì. La Fiorenza le sta rubeia, dal bel moro sarà sì. Tante nella mia spadina, fu nel pugnal d'Arzè. In vaga gire lo mondo, e la Fiorenza la troverè. Bel galantare andà la guerra, per sé tan naturna pì, e la povera Fiorenza le restai senza marì. Vai tre lavandere, callavamo so fardel, in un povo i lavandere, ma se c'ama sto castel alle del bel moro, del bel moro sarà sì, e setani che Fiorenza, e setani caiedri,
per galantare andà. La guerra per sé tanna turna pì, e la povera Fiorenza le stai senza marì.
E il bel moro alla finestra da lontan da vis venì, che i ben sa bella Fiorenza dai un nom del vostro paese. Feie festa prunte la tavola, fei del pane del buon vin. Di a disnebbe la Fiorenza, di a disne cuma per me. Quan le stai nita la tavola, pietumba la ninim dal di. Culane lì dal vetumba ve, ale culca spusami.
Bel galantare andà la guerra, per sé tanna turna pì, e la povera Fiorenza le restai senza marì. Bel galantare andà la guerra, per sé tanna
Bel galanta le anda la guerra per se tanna turna ti. E la povera fioressa le restai senza mari.
Alors c'était Andrea Capezzuoli, Intrecci. La pièce c'est Il Moro Saraceno. J'aime beaucoup l'accordéon, puis c'est un peu un clin d'œil pour le festival d'accordéon qui a eu lieu cette année, comme de chaque année là, à la fin du mois d'août. Malheureusement, cette année, je suis pas allé, mais je suis déçu, là, j'ai pas pu y aller, mais je vais certainement y retourner l'an prochain. C'est vraiment un beau festival à chaque année. Alors, mettez ça dans votre agenda vers la fin du mois d'août, le festival d'accordéon à Montmagny. Et cet accordéoniste-là, je l'ai vu là, l'an dernier là, au festival. Puis voilà, mon petit clin d'œil à l'accordéon. Donc, puis avant ça aussi, en début d'émission, oui, on avait eu Richard Séguin, comme d'habitude, de l'album Retour à Walden. La pièce, c'est Devant moi la vie. Et au tout début d'émission, comme à chaque émission, dans toute simplicité, je vous ai lu un extrait de Walden sur les bleuets sauvages. Alors, comme je vous disais, cette année, la thématique de l'émission va porter sur les liens. Alors, je reviens avec un livre que j'ai abordé l'an dernier, la saison dernière. Le titre, c'est « La puissance des liens ». C'est un collectif d'auteurs sous la direction d'Ilios Kotsou et Caroline Lecire. Alors, ils ont des textes, Christophe André, Abdenour Bidar, Fabienne Brugère, Boris Cyrulnik, Rebecca Shankland et Mathieu Ricard. Plusieurs textes qui offrent une réflexion sur l'importance des liens dans nos vies. Alors, je vous lis quelques extraits dont le texte ici, qui est le chapitre 3, « Nous sommes des êtres de lien », justement d'Ilios Kotsou et Caroline Lecire. « Nous l'avons vu, les humains sont des animaux sociaux, incapables de survivre seuls, de vivre et de s'épanouir en dehors du groupe. Nous sommes des êtres de lien qui dépendent les uns des autres. » Et nous avons un besoin intrinsèque d'interagir et d'entrer en relation. C'est dans ce sens qu'Aristote dit des humains qui sont des êtres politiques. Il est manifeste qu'à partir de cela, que la cité fait partie des choses naturelles et que l'homme est par nature un animal politique. Notre espèce, Homo sapiens, est apparue il y a environ 300 000 ans sur le continent africain. Au départ, un petit nombre d'individus, puis ces homo sapiens se sont multipliés, développés, déplacés et ont investi l'ensemble de la planète. Cet incroyable succès est notamment attribué à notre extraordinaire capacité à créer des liens et à coopérer. Notre sociabilité est le produit de l'évolution. Nous partageons avec les autres animaux sociaux notre cerveau et notre physiologie sont adaptés à la vie en société, favorisant la coopération, la communication et le partage d'informations. Pour la plupart des mammifères, la coopération est limitée aux membres de la famille, les malades ou les moins valides, devant se débrouiller tout seuls. Par contre, même dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, les mammifères humains coopèrent avec des individus sans lien de parenté et prennent souvent en charge les plus fragiles. Et un petit peu plus loin, je vais lire quelques extraits du livre. Alors, il y a aussi le texte de Christophe André sur la consolation. Il écrit un livre qui s'intitule La consolation. Alors, quand j'ai commencé à parler de la consolation autour de moi, je me suis rendu compte que c'était un besoin. Je pourrais citer le titre d'un livre qui n'est pas très réjouissant, notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Encore moins réjouissant quand on sait que l'auteur, Stig Dagerman, a fini par se suicider. Il ne disait pas ça à la légère. Il le pensait réellement. Ce qui est évident, c'est que la vie humaine nous expose forcément à l'adversité. Même les vies qui ne croisent pas de grandes épreuves connaîtront des deuils, des chagrins, des maladies, le sentiment de solitude, des blessures et des moments de désespoir. Elles nécessiteront cette réparation à la fois fondamentale et dérisoire qu'est la consommation. Une citation du poète Christian Bobin illustre justement cela. « Quelle que soit la personne que tu regardes, sache qu'elle a déjà fait, qu'elle a déjà plusieurs fois traversé l'enfer. » Cela sous-entend que nous aurions toutes et tous intérêt à ne jamais oublier, chaque fois que nous croisons quelqu'un, que cette personne est l'un de nos semblables, c'est-à-dire quelqu'un de sensible et qui a plusieurs fois traversé l'enfer, qui sait ce qu'est la souffrance et qui est peut-être à cet instant en train de vivre des souffrances qui le rendent plus fragile et beaucoup plus en besoin de consolation que nous l'imaginons. Alors ça, c'est un beau texte de Christophe André dans le livre, pour ceux qui s'intéressent, « La puissance des liens ». Un petit peu plus loin, là, il continue, « Les voies de la consolation et d'autoconsolation. Chaque fois que quelqu'un vient vers nous, s'assied à côté de nous, nous permet d'avoir du chagrin et nous dit des choses réconfortantes, c'est le must absolu, c'est la nécessité absolue, mais on ne peut pas toujours rester avec quelqu'un à nos côtés, on ne peut pas toujours rester à pleurer dans les bras des personnes qui nous aiment. Donc, on va s'enclencher dans ce que j'appelle les autoconsolations. Il s'agit de tout petits efforts que l'on va faire pour se réconcilier avec la vie et avec le monde qui nous entoure. Ces autoconsolations sont nombreuses. Ce qui autoconsole la plupart des humains, c'est le contact avec la nature. On sait plus ou moins pourquoi la nature réveille en nous un sentiment d'appartenance, là où la souffrance, à l'inverse, nous rétracte sur nous-mêmes. La nature, par sa beauté, par sa générosité, par sa simple présence, ouvre notre attention à notre écosystème naturel. Elle a un effet direct et apaisant sur notre cerveau, plus exactement sur les zones émotionnelles de notre cerveau. Le contact avec les animaux est aussi une autoconsolation que j'ai trouvée chez beaucoup de personnes qui m'ont confié ce qui les consolait. Regarder un chien courir, fou de joie, peut avoir un effet réjouissant et pacifiant. Tout ce qui est action et divertissement est salvateur. Même si cela peut paraître dérisoire, ranger, faire des courses, marcher sont des activités qui suspendent la douleur et nous remettent en mouvement. Il ne faut pas avoir peur des gestes simples. Le grand problème de la détresse est d'immobiliser la personne dans sa souffrance. Cette dernière stoppe les interactions, les arrête et arrête d'avancer dans sa vie. L'art est un domaine qui concerne. Quand on a du chagrin, on aime écouter de la musique. D'ailleurs, on commence souvent par écouter de la musique triste, comme si nous avions besoin de plonger dans notre tristesse pour mieux la traverser et s'en libérer ensuite. Beaucoup d'études aussi montrent l'effet consolant et réparateur de la lecture et de l'écriture. La méditation, bien évidemment, qui permet de se reconnecter au monde qui nous entoure et au présent. Le bouddhisme, terreau de la méditation de pleine conscience, insiste beaucoup sur le rapport que nous avons à la souffrance et sur l'importance de comprendre ces mécanismes, ces voies de libération, qu'il s'agisse de la méditation prolongée pour se reconnecter au monde qui nous entoure ou de brefs instants durant lesquels on se rend tout à coup présent à ce même monde qui nous entoure, ne serait-ce le temps de quelques carrés de chocolat à ravaler. Plusieurs exemples. C'est un beau texte de Christophe André sur les liens. Et je termine sur le livre sur les liens avec un extrait de Henri-David Thoreau. « Soir délicieux où le corps entier n'est plus qu'un sens et par tous les pores absorbe le délice. Je vais et je viens avec une étrange liberté dans la nature, devenue partie d'elle-même. Tandis que je me promène le long de la rivière pierreuse de l'étang, en manches de chemise, malgré la fraîcheur, le ciel nuageux et le vent, et que je ne vois rien de spécial pour m'attirer, tous les éléments me sont étonnamment homogènes. La sympathie avec les feuilles agitées de l'aune et du peuplier me fait presque perdre la respiration. Toutefois, comme le lac, ma sérénité se ride sans se troubler. Ces petites vagues que le vent du soir soulève sont aussi étrangères à la tempête que la surface polie comme un miroir. Bien que maintenant la nuit soit close, le vent souffle encore et mugit dans le bois, les vagues encore brisent et quelques créatures invitent de leurs notes au sommeil. Pourquoi me sentirais-je seul? Notre planète n'est-elle pas dans la Voie lactée? La véritable moisson de ma vie quotidienne est en quelque sorte aussi intangible, aussi indescriptible que les teintes du matin et du soir. C'est une petite poussière d'étoiles entrevue, un segment de l'arc-en-ciel que j'ai étreint.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
C'est Nina Simone. L'album, c'est Gold. C'est un album double. La pièce, c'est I'm Feeling Good. Feeling Good. Cette pièce-là fait partie de la trame sonore, justement, du film Perfect Days, qui est une très belle trame sonore, ce film-là, parce que c'est le principal intéressé dans le film. C'est quelqu'un qui vit dans la simplicité, mais qui a des vieilles cassettes des années 70 qui fait jouer dans son véhicule de nettoyeur de toilettes. C'est l'histoire d'un nettoyeur de toilettes à Tokyo. Alors, voilà. Alors, je termine l'émission par une lecture du beau livre que j'ai commencé l'an dernier aussi, Taureau, Yogi des Bois, toujours sur Taureau. C'est un très, très beau livre pour ceux qui s'intéressent à Taureau. Là, je vous le recommande vraiment. Alors voilà, je vous lis quelques extraits. Le bonheur de la sobriété crée un espace, pas d'encombrement, mais du vide, de la lumière, pour accueillir ce qui vient, ce qui va venir, nous advenir. C'est le même sens, c'est le sens même de l'aventure. Un terme au parfum de futur, la termination en ure, ajouté au verbe de mouvement advenio, arriver, laisser de la place pour l'imprévu, sans aller jusqu'à vivre dans un tonneau comme Diogène. Nous pouvons cultiver notre art personnel de la sobriété en régulant notre consommation. Grâce à la frugalité, la pauvreté peut devenir richesse, déclarait Sénèque. Prendre le goût de la simplicité en se défaisant de l'inutile surcharge, cela n'a pas de prix, luxe suprême. La sobriété vécue en conscience accompagne ainsi tout naturellement le pas de côté de Taureau. Elle apparaît comme un antidote à l'appropriation matérielle, mentale, affective. Trop, c'est le genre du mal-être. Mal se nourrir, mal gérer les trésors de la planète. Une croissance exponentielle ne peut qu'aboutir à l'absurde. Comment percevoir alors le juste équilibre en toute chose? Si cette connaissance vous manque, cherchez à l'intérieur, en vous, en votre simplicité, répond Maître Eckhart. Il y a dans notre nature un fond simple, un désert, une forêt. Alors voilà, c'est terminé pour l'émission. Alors, pour ceux que je vous disais tantôt, pour ceux qui s'intéressent, le Café philosophique vendredi prochain, il s'agit de téléphoner à la librairie La Liberté. Et sur ce, ben je vous souhaite bonne semaine et à la semaine prochaine.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Monde musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Monde Musicaux avec Christine Borello tous les samedis à 18h sur les ondes de CKIA FM.
Québec Réveille, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualités locales, enjeux sociaux, culture, sport, politique. Prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire de Québec une ville plus juste et plus belle. Québec Réveil, du lundi au vendredi, dès 7h30.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du 13 septembre 2024. Québec accueille aujourd'hui son 13e Grand Prix cycliste. À cette occasion, plus de 150 des meilleurs coureurs au monde s'affrontent sur un parcours à la fois majestueux et exigeant. Entre 11h et environ 16h15, une boucle de 12,6 km sera franchie pour plus de 16 fois par les cyclistes pour un parcours total de 201,6 km. Pour l'occasion, d'importantes modifications à la circulation et au stationnement sont en vigueur dans les secteurs du Vieux-Québec, de la colline parlementaire, des plaines d'Abraham, du boulevard Champlain et de la cour de la Montagne. Les travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Pur à Québec sont en grève pour accentuer la pression afin de